Je suis à Rome pour mes engagements, comme vous le savez, dans le cadre du Conseil des 9 cardinaux et la célébration du 63e anniversaire de notre indépendance me trouve ici. Je n'ai pas eu l'occasion d'être au pays, offrir l'Eucharistie au Seigneur en action de grâce pour ce moment important de notre histoire. Mais je constate aussi que l'indépendance se vit aujourd'hui au Congo dans la douleur. Beaucoup m'ont écrit pour me souhaiter bonne fête, mais en général, dans mes réponses, j'invitais tout le monde à la méditation, à la prière. Mon mot s'explique à partir du contexte socio-politico-économique qui se résumerait en un seul mot, une misère insupportable pour le peuple congolais. Chaque année qui passe depuis 1960, nous avons l'impression que chaque année apporte son lot de misère et de souffrance au lieu que les conditions de notre peuple puissent s'améliorer. Et avec le dernier développement de la situation socio-pastorale, avec les guerres à l'Est, une bonne partie de notre population qui est chassée de sa maison, de son village, et qui erre çà et là comme des bêtes traquées. Il y a 2 semaines, j'avais accompagné le cardinal Taglé. Nous avons visité des camps de réfugiés à Goma. Ça fait très mal au cœur. Vous connaissez la situation économique, la misère économique que vit aujourd'hui le peuple congolais. Vous connaissez aussi le climat politique qui est délétère. Si je prends tous ces éléments, il y a de quoi vraiment la tentation du découragement est là pour le peuple. Et le rôle du pasteur, c'est de soutenir l'espérance du peuple. D'autant plus que notre peuple, c'est un peuple qui croit, qui a foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre espérance. Au-delà de tout ce qui se fait de triste, de révoltant dans le pays, le peuple doit garder sa flamme d'espérance allumée. Et je crois que c'est mon rôle en tant que pasteur de le lui rappeler, surtout pendant une journée aussi paradigmatique que le 30 juin, la date de l'indépendance de notre pays.
Toujours dans votre message à l'occasion de cette fête de l'indépendance, vous avez appelé vos compatriotes à se tenir main dans la main pour élever ensemble les défis de l'unité, des cohésions nationales, des paix, des développements durables. Et vous venez de décrire aussi cette situation un peu délétère de votre pays. Que pensez-vous que vos compatriotes, les Congolais, peuvent faire ensemble pour pouvoir élever tous ces défis auxquels le pays fait face?
La sagesse populaire nous a toujours enseigné que là où les choses vont très mal, une société doit se tenir main dans la main pour être plus fort. Et nous constatons malheureusement que dans le contexte du Congo, là où tout va très mal, il y a certains de nos compatriotes et parfois même de grands responsables qui prennent un malin plaisir à diviser le peuple, alors que le pays prend feu de tous côtés, avec le groupe armé à l'Est, avec le mouvement M23, etc., qui met en péril notre existence commune. À ce moment-là, au lieu de nous souder, il y en a qui veulent nous diviser. Sur le plan économique, quand il y a la misère qui atteint son comble, comme actuellement, normalement, on se soutient, on partage le peu qu'on a. Et on se tient main dans la main. Mais malheureusement, le constat au pays, c'est qu'il y a un petit groupe de gens au pouvoir qui se taillent presque l'entièreté du gâteau et ne partagent pas avec les autres. C'est ce manque de solidarité, c'est ce manque de soutien mutuel que j'essaie de dénoncer dans mon message.
Dans 6 mois, les élections sont prévues dans votre pays en décembre de cette année, et vous espérez que, avec ces élections, quelque chose pourra changer?
Nous vivons de l'espérance. Et c'est pour cela que nous sommes des chrétiens. et de chrétiennes au Congo. Malgré tous les désordres que nous avons connus lors des dernières élections, nous n'avons pas perdu l'espérance que les choses pourront s'améliorer. Voilà pourquoi l'Église catholique au Congo, à travers sa commission Justice et Paix, continue à organiser l'observation électorale. Parce que nous pensons qu'à travers cette observation électorale, nous pourrons peser de tout notre poids pour que les élections puissent se passer dans de conditions acceptables. Même si ce ne sera pas des élections parfaites, mais au moins que le minimum soit garanti pour que celui qui sera proclamé soit réellement celui qui est élu par le peuple.
Éminence, quel appel lanceriez-vous au peuple congolais, mais aussi aux leaders politiques, aux acteurs, pour ces élections-là? Quel appel pouvez-vous lancer déjà 6 mois avant?
La première chose, c'est de résister à la tentation du désespoir. Nous savons, les dernières élections, comment les choses s'étaient passées. Ça a créé une grande frustration dans la population, au point qu'aujourd'hui, quand on invite les gens à aller aux élections, ils vous rappellent toujours, mais est-ce que notre volonté sera respectée? Je comprends ces risques-là, mais j'exhorte en même temps le peuple à ne pas tomber dans la tentation du désespoir. Ce qui a été, nous avons pris acte de ça, mais l'avenir dépend du peuple. Il est important que le peuple suive ce que les évêques ont écrit dans leur message, le dernier message de Lubumbashi. Et c'est aussi l'obligation de veiller à l'ensemble du processus. C'est pour cela que nous faisons l'éducation civique électorale, pour que le moment venu, que le peuple puisse veiller, non seulement aller poser son bulletin et partir, mais veiller au bureau jusqu'à ce que les résultats soient affichés. Et à ce moment-là, ça nous aidera aussi à voir au niveau national que le résultat qui sera proclamé soit conforme à la volonté du peuple exprimée dans les urnes. Donc, vis-à-vis du peuple, mon message, c'est tout simplement une exhortation à ne pas céder au désespoir, à s'engager, à se faire enrôler comme ça a déjà été fait, et le long du processus électoral, que le peuple garde allumé sa vigilance. Vis-à-vis de la classe politique, nous sommes vraiment tristes de constater ces va-et-vient, cette sorte de vagabondage politique. On passe d'un bord politique à l'autre, mais vous vous rendez vraiment compte que la classe politique n'a pas une vision politique qui est essentiellement une vision éthique. Et qui dit vision éthique dit un idéal social pour le peuple. Donc ça manque cruellement à notre classe politique. Le Congo est aujourd'hui le seul pays au monde où il y a plus de 600 partis politiques. Cela signifie que chaque politicien représente un parti politique. Et la vérité, c'est que tous courent derrière le gâteau. Et quand le gâteau change de camp, tous changent de camp pour pouvoir manger. Et c'est vraiment triste pour l'image de la classe politique du Congo. Heureusement qu'il y a aussi une petite minorité qui fait la différence et qui croit en cet idéal politique et qui est prêt à s'engager. Donc l'Église est vraiment disposée à encourager cela à aller de l'avant pour que la politique soit vraiment un métier au service de la population.
Éminence, votre pays fait face à une grave crise sécuritaire. Les problèmes de la sécurité ont été soulignés à plusieurs reprises au cours de la commémoration de cette fête de l'indépendance, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Et dans votre dernier message, les évêques, vous êtes revenus dessus. Comment voyez-vous à ce jour la situation et quel est votre appel pour pouvoir faire quelque chose pour que la population puisse retrouver un peu plus de sécurité?
Le problème du Congo actuellement se situe à deux niveaux. C'est d'abord au niveau sous-régional et international. Le Congo est considéré tout simplement comme, avait dit le pape, un diamant que tout le monde veut avoir. Mais tout le monde veut avoir ces diamants sans les Congolais. Malheureusement, ce sont les grandes puissances occidentales. Aujourd'hui, non seulement les puissances occidentales, la Russie est là, la Chine est là, tout le monde se bouscule au portillon de ces diamants que tout le monde veut avoir, mais sans les Congolais. Voilà pourquoi le pape avait déclaré haut et fort lors de sa visite pastorale au Congo, « Retirez vos mains du Congo ». Et ces puissances occidentales, malheureusement, au lieu de venir chercher ces diamants au Congo, ils se servent de pays voisins pour atteindre leur finalité. Et malheureusement aussi, ces pays voisins, notamment le Rwanda, utilisent la force, utilisent la ruse pour créer l'insécurité à l'est du pays. Il est aujourd'hui démontré par la communauté internationale, par les Nations Unies, que c'est le Rwanda qui crée le désordre à l'est du pays. Ça, ce n'est plus un secret. Il y a des documents qui attestent cette réalité et nous trouvons, ça c'est vraiment dommage pour un pays qui a vécu les affres des génocides contre les Tutsis et que ce soit ce même pays qui prend la tête de cette sorte de commando qui crée les désordres à l'est de notre pays. Ça, c'est par rapport à la sous-région et à la communauté internationale. Mais il y a une grande part de responsabilité qui revient aussi aux Congolais. Parce que tout ce qui se fait dans la sous-région ne serait pas possible s'il n'y avait pas la coopération des Congolais eux-mêmes, en commençant par ceux qui sont au pouvoir. Tous ceux qui se sont succédés au pouvoir ont joué ces jeux contre l'intérêt même du Congo. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui.